Colibre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission Radicaux Libres qui est elle-même sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler d'addiction à propos de la population française, c'est pas bien. Elle est donc addicte à la dépense publique, la population française, selon les membres du gouvernement de millionnaires qui se fait passer pour nos représentants. Eh ben oui, alors du coup ils veulent sabrer ces membres du gouvernement dans les dépenses sociales puisque eux et leurs camarades de classe sociale n'en ont pas besoin, non, c'est pour les pauvres. Car depuis 2017 c'est la fête de la bourgeoisie quand même, hein. Oui, la fin de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, elle est finie, un manque à gagner de plusieurs milliards par an, oui c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE et compagnie. La flat tax qui plafonne les impôts des plus riches, la réduction des impôts sur les sociétés, ce qui profite aux plus grandes des sociétés qui distribuent des dividendes toujours plus importants à leurs actionnaires. Mais d'ailleurs c'est qui ces actionnaires? Ah bah c'est toute la population française. Ah non, pas du tout. En mars 2023, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, produisait une note d'étude des investisseurs français actifs en 2022, c'est-à-dire ceux qui ont effectué au moins une opération en bourse à l'achat ou à la vente sur l'année. Sur l'année 2022. Devinez. Ah non, non. Ah ben il représente 2,1% de la population française, soit 1,4 million de personnes. Tout de suite, on est loin de l'intérêt public, vous voyez, c'est-à-dire pour une majorité de la population. En 2021, un article du Monde donnait le chiffre de 4 millions d'actionnaires, les petits porteurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils ont des actions, mais ils les laissent là, sur leur... Dans leur bagage financier, hein, ils n'y touchent pas beaucoup. Donc ce ne sont pas ce qu'on pourrait appeler, ce qu'appelle l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, des investisseurs français actifs. Et bien donc, Le Monde donnait un chiffre de 4 millions d'actionnaires en France, toujours tiré des chiffres de l'AMF, loin des 7 millions du début des années 2000. Oui, quand on a voulu faire croire à tout le monde qu'ils pouvaient devenir riches en boursicotant, en admettant que ces actionnaires aient une famille, voilà, et représentent en moyenne 3 personnes. Allez, allons jusqu'à 4 si vous voulez. Dont eux-mêmes, bah ça fait 15 millions de personnes, soit un peu plus de 20% de la population concernée par le marché boursier, 20% de la population française. Depuis 2017, nos soi-disant représentants favorisent la vie des premiers de cordée, du haut du panier, en clair des bourgeois qu'ils côtoient tous les jours, puisque c'est leur famille, c'est leurs amis, ce sont leurs partenaires en affaires. Et comment ils favorisent la vie des premiers de cordée et compagnie? Eh bien en limitant toujours ce que les plus riches doivent payer à la communauté, ce qu'ils doivent verser dans les différents pots communs. Alors forcément, les déficits publics s'accroissent. Eh ben oui, alors moins de recettes, ben, l'ISF, on l'a dit, flat tax à la française, hein, le fameux prélèvement forfait unique. On fera une émission sur le sujet, histoire de rappeler quand même à monsieur Bruno Le Maire que faut arrêter de taper sur les pauvres, faudrait peut-être plutôt regarder un tout petit peu en arrière. Oui, un tout petit peu, 2017, c'est pas si vieux, pour voir tous les avantages qu'ils ont donnés aux plus riches. Donc l'ISF en moins, le prélèvement forfaitaire unique, les dépenses qui augmentent mécaniquement, bah ouais, moins de recettes, plus de dépenses, voilà comment le déficit public s'accroît. Et voilà comment nos gouvernants en arrivent à punir l'immense majorité des habitants du pays en réduisant les services rendus au public et en continuant à soutenir leur classe sociale. C'est vraiment moche. Franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment moche. Être à la place où ils sont et favoriser de manière si outrancière simplement les copains, la famille. Et si quelqu'un est addict, il me semble que ce sont plutôt ces margoulins qui nous servent de représentants qui ne peuvent s'arrêter de s'enrichir en argent et en pouvoir. On aurait pu vous parler de la énième condamnation de Éric Zemmour. Pour racisme, bah oui, en l'occurrence c'est pour racisme. Il a de nouveau été condamné, cette fois-ci c'était en appel pour avoir insulté, parce qu'il avait fait appel, pour avoir insulté une chroniqueuse de Canal+, sur C8 en septembre 2018. Cette dernière s'appelle Absatou, et non pas Corinne, ce qui est, je cite, pour citer l'idéologue d'extrême droite, une insulte à la France. Voilà, Absatou, c'est une insulte à la France. C'est sympa, hein, pour toutes les personnes qui ne s'appellent pas Eric ou Corinne. Allez, nos commentaires. On aurait pu vous parler de la lutte initiée par les étudiants des Beaux-Arts. Comment ça, il y a une lutte initiée par les étudiants des Beaux-Arts ?
Hey, oh, let's go ! Hey, oh, let's go ! Hey, oh, let's go !
Assassin's Creed. Non, les Ramones ne se sont pas reformés, mais de jeunes rebelles reprennent cette hymne à la jeunesse énervée.
Vous en voulez quoi, là ?
Ouais, pourquoi pas.
Rapprochez-vous un peu.
C'était lundi 25 mars vers 18h30, avenue Rostov-sur-le-Don, sur le parvis, devant les Beaux-Arts. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qu'il se passe, on l'a posé à l'une des représentantes du Talm en lutte. Le Talm, eh bien, c'est Tours, Angers, Le Mans, c'est l'ESAD, c'est-à-dire l'école supérieure d'art et de design, qui est présente à la fois à Tours, à Angers et Le Mans, et qui, en fait, a la même direction. On lui donne la parole. On est devant le Talm, les Beaux-Arts, les fameux Beaux-Arts, et on voudrait savoir pourquoi c'est la fête derrière.
Alors c'est la fête parce qu'on fait entendre notre mécontentement lié à l'augmentation de nos frais de scolarité et globalement à la situation générale des écoles d'art publiques en France. Et du coup on fait un petit concert pour récupérer entre autres un petit peu de sous et pour faire du bruit, faire parler de la cause quoi.
Donc c'était carnaval aujourd'hui, c'est ça ?
Tout à fait, aujourd'hui c'était un carnaval masqué et bruyant, donc pour faire intrusion dans notre CA, se faire entendre nos revendications, dont entre autres l'annulation de ces frais d'augmentation pour une meilleure diversité et un accès à tous à l'éducation artistique et culturelle publique.
Qu'est-ce qui a bien pu motiver le CA pour augmenter les frais d'inscription de manière drastique, puisque j'ai entendu parler de 700 euros pour des étudiants non boursiers hors Union européenne ?
Ce qui les a motivés, c'est qu'ils arrivent tout simplement au bout de leurs réserves. En tout cas, c'est ce qui nous a été expliqué, que ça fait déjà quelques années qu'en réalité, il y avait un problème de rentrée d'argent, qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les fonds qu'ils avaient de côté pour soutenir l'augmentation générale et la perte de certaines aides de la part de l'État. Et donc, toutes ces choses-là, ça se répercute directement sur les étudiants. Maintenant, même nous, dans les faits, on a du mal à avoir des informations claires sur les chiffres, sur à combien de pourcents est-ce que nous, ce qu'on paierait, ça couvrerait ou non cette dette, entre guillemets, de l'école. Et on est même pas sûr que ce soit vraiment dans des pourcentages significatifs. Donc finalement, on va venir gratter sur ce que les élèves peuvent donner. On n'est même pas sûr que ça résout franchement les problèmes de fond à l'école parce qu'on a toujours du manque de matériel, on a du manque de salles, on a du manque de professeurs. C'est l'éducation comme enfin, public, hein, je suppose que c'est un peu partout pareil malheureusement.
Et le Talm, c'est Le Mans, Angers et Tours. Est-ce que ça suit dans les autres lieux ou pas ?
Ouais, tout à fait. Bah, nous, c'est pour ça qu'on parle bien en nom de Talm en lutte. Talm, ça veut dire Tours, Angers, Le Mans. On se considère comme une seule et même école. Et aujourd'hui, on a eu le soutien des étudiants de Angers et Tours qui sont venus jusqu'au Mans pour participer au carnaval et qu'on puisse échanger tous ensemble d'une direction commune. On essaye au maximum de ne pas penser que local, même si on a un problème local au Mans, mais c'est le même problème qu'on va avoir de façon locale à Angers, à Tours. Et on aimerait même réussir à nationaliser un peu ce mouvement parce qu'au vu des dernières déclarations de la ministre, toutes les écoles d'art sont en danger, en fait, dans le fond.
Au sein du conseil d'administration, il n'y a pas de représentants des élèves ?
Alors, on a des représentants des élèves, mais malheureusement, et c'était dans nos revendications de ce matin, ils n'ont pas assez de poids. Et nous, on aimerait qu'aujourd'hui, les représentants enseignants et élèves aient un droit de veto dans ce CA.
Un CA qui, le 19 février, un conseil d'administration qui, le 19 février 2024, a donc voté une augmentation importante des frais de scolarité pour les étudiants. En l'occurrence, plus 200 euros pour les étudiants boursiers, plus 400 euros pour les étudiants non boursiers, plus 700 euros pour les étudiants non boursiers hors Union européenne. Alors, les frais d'inscription 2023-2024, c'était pour les boursiers entre 230 euros et 367 euros, vous ajoutez 200 donc. Pour les non-boursiers, c'est 520 euros pour ceux du premier cycle et puis 600 pour deuxième et troisième cycle, vous ajoutez 400 euros. Et pour le hors Union européenne, c'était 800 euros, vous ajoutez 700. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Mais ce qui se passe dans les écoles supérieures d'art et de design et toutes les écoles des beaux-arts, parce qu'il n'y a pas que du design, l'affaire n'est pas récente depuis la rentrée 2022. En effet, de nombreuses écoles sont en lutte, que ce soit des écoles supérieures d'art territoriales, donc surtout financées par des collectivités territoriales, ou des écoles d'art supérieures nationales, qui sont, elles, totalement financées par le ministère de la Culture. Pourquoi toujours pareil, obtenir de quoi fonctionner. Voilà pourquoi il y a un mouvement de lutte depuis la rentrée 2022. En 2023, une rallonge budgétaire de 2 millions d'euros a été octroyée aux ESAD. Bien loin des besoins. Et depuis que Rachida Dati est ministre de la Culture, avec son style inimitable, complètement disruptif, je veux dire, tu vois quoi, elle remet en cause le fonctionnement et les objectifs des ESAD, des écoles supérieures d'art et de design. Le 20 mars, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, après avoir affirmé son désir de permettre l'accès à la culture pour tous... Pardon, excusez-moi, un rire nerveux. Un petit laïus sur l'intelligence artificielle, obligatoire en ce moment. Hein. À chaque fois qu'on entend parler l'un de nos représentants, il nous parle d'intelligence artificielle. Bah, qui nous sauvera tous. De quoi, je ne sais pas, mais bon, bah, je ne sais pas. Et autre sujet, eh bien, après avoir fait tout ça, elle a assuré que les écoles d'art devront accueillir des alternants et des apprentis à la rentrée 2024. En gros, ça va devenir des CFA. Et elle a réclamé la mise... J'ai rien contre les CFA, mais quand même, c'est pas tout à fait pareil. Et elle a réclamé la mise en place d'écoles performantes et que des fermetures étaient possibles. Les étudiants du TALM ne comptent pas en rester là, après avoir perturbé le conseil d'administration du 25 mars. Et depuis le 19 février, ils sont en lutte. Là, maintenant, ils se montrent un petit peu. La lutte continue, en gros. La suite au prochain épisode.
J'arrête.
C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le C.
Le C comme créativité. Ben oui, on parlait des beaux-arts. Créativité. C'est exprimer ta vision du monde et tes idées sous une forme ou une autre, que ce soit par des actions, par des peintures, en chantant, dans des jeux, etc. La créativité te permet de découvrir le monde, de le rêver, de partager ton imagination avec les autres et de faire des choses amusantes. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite aux étudiants du TALM. On aurait pu vous parler des pesticides, à propos desquels une association de médecins dénonce un déni des connaissances scientifiques de la part de nos gouvernants. J'ai du mal à croire quand même que ces gens qui sont si carrés, qui ne sont pas formés simplement à la communication, soient dans un déni de connaissances scientifiques. Eh ben pourtant, c'est ce que dit une association de médecins qui, dans un communiqué qui a été publié dans bon nombre de médias jeudi 28 mars, dénonce donc un déni des connaissances scientifiques de la part de nos soi-disant représentants en mettant au rancard, par exemple, le plan éco-phyto. Les pesticides tuent. Et en premier lieu, ceux qui les utilisent, donc les exploitants agricoles. C'est une très très mauvaise idée de laisser les exploitants agricoles continuer à utiliser ces produits mortifères. En 2021, le réseau Pan Pesticides Action Network International produisait une méta-recherche montrant que dans le monde, près de 400 millions d'intoxications étaient dues aux pesticides par an et qu'elles avaient entraîné au moins 11 000 morts. 11 000 morts avérées, c'est pour ça que j'ai dit au moins. C'est sans compter les maladies liées à la présence des pesticides dans l'eau, dans l'air, dans les aliments. Et tutti quanti, en 2021, toujours l'INSERM, qui est un institut national qui sert justement à lutter contre les maladies et les dangers que nous pourrions avoir, eh bien produit un nouveau rapport qui fait suite à celui de 2013 sur les liens entre maladies et pesticides. Et là, ils ont cherché la présomption d'un lien entre les pesticides et les maladies. La présomption d'un lien est forte entre l'exposition à des pesticides et les lymphomes non-Hodgkiniens. J'ai jamais réussi à le dire. Les NLH, le myélome multiple aussi, présomption forte. Le cancer de la prostate, présomption forte. La maladie de Parkinson, présomption forte. Des troubles cognitifs, idem. La bronchopneumopathie chronique obstructive. Hey, c'est un truc qui fait que vous n'arrivez plus à respirer. Sympa, hein. Et la bronchite chronique. La présomption n'est que moyenne. Oh ben c'est rassurant. Pour la maladie d'Alzheimer, les troubles anxio-dépressifs, certains cancers comme les leucémies, les cancers du système nerveux central, les cancers de la vessie, les cancers des reins, les sarcomes des tissus mous. La présomption est moyenne également pour l'asthme et les sifflements respiratoires et les pathologies thyroïdiennes. En clair, notre milieu de vie est contaminé par les pesticides et ça nous rend malades. Toutes les avancées scientifiques pour lutter contre les cancers s'attaquent aux conséquences. Une fois que la maladie est déclarée, mais dans une société qui ne serait pas gérée par l'intérêt des adorateurs du profit, nous aurions interdit depuis longtemps l'utilisation des pesticides et de bien d'autres choses. Mais pour cela, il faudrait que la population passe avant le pognon. Tiens, mais dit comme ça, ça paraît tellement logique. M'en voilà désarçonné. On aurait pu vous parler de l'opposition aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui s'organise. Si vous voulez en savoir plus, Saccage 2024, SACAGE2024.noblogs.org, Saccage2024.noblogs.org. Mais on a préféré vous parler des chronolignes. Le collectif contre l'abattage des 400 arbres présents le long des chronolignes, dont 200 avenue Bollée, appelait à un rassemblement samedi 23 mars au matin sur l'avenue Bollée, à la hauteur de l'école Herpel. Nous y avons retrouvé l'un des membres du collectif qui nous parle.
Alors il y a un rassemblement en fait pour dire que c'est sans doute un mauvais projet que de couper les arbres pour installer les chronolignes. Donc en fait il est important de garder les pistes cyclables et les arbres, et pour ça de penser une ville véritablement décarbonée. Donc les gens qui sont là aujourd'hui sont là pour exprimer le fait qu'ils veulent garder les arbres, et nous les Corias on dit qu'il faut garder les pistes cyclables et les arbres et réduire la place de la voiture en ville. C'est pas facile à expliquer et à apporter, mais c'est ça qu'il faut faire, à notre avis.
Il y a une enquête d'utilité publique actuellement sur les chronolignes. Est-ce que vous allez y participer ?
Oui, on a participé. On a envoyé un courrier en fait au préfet, puisque c'est le préfet qui reçoit les éléments de l'enquête d'utilité publique, le commissaire enquêteur. Oui, bien sûr, on a déposé l'ensemble des arguments, y compris ceux qui concernent la ville décarbonée, c'est-à-dire une ville dans laquelle il y a moins de voitures.
Pour qu'il y ait moins de voitures, il faudrait peut-être développer les rocades. Est-ce que c'est une bonne solution ?
Non, les rocades, ce n'est pas forcément une bonne solution, en fait. Il faut réduire globalement la place de la voiture et en même temps avoir des services de mobilité pour les gens qui en ont besoin, pour transporter les objets lourds, pour déménager, pour que les entreprises puissent intervenir, pour que les entreprises puissent être livrées. C'est tout un système à organiser. Et aujourd'hui, il n'est pas certain que la ville aille aussi loin qu'il le faudrait, étant donné les urgences.
Vous avez pu entendre Jean-François Devins, membre des Corias, un groupe militant local qui souhaite peser sur la démocratie municipale locale. La présence de la voiture individuelle en ville est une hérésie. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait quand même essayer de réduire cette place de la voiture. Avec les chronolignes, on essaye, on ménage la chèvre et le chou. C'est mi-chèvre, mi-chou. Faut laisser de la place aux bagnoles, mais en même temps, faut faire un couloir pour les bus. Mais en même temps, puisqu'il y a un nouveau aménagement et que c'est obligatoire, il faut faire des pistes cyclables. Mais faut laisser de la place aux bagnoles. Bah oui, mais trop! Trop, toujours! Parce que la présence de la voiture individuelle en ville, convenons-en, c'est une hérésie. Entre les places de parking, les voies de circulation dédiées à la bagnole, c'est une grande part de l'espace public qui est occupée par la bagnole. Dans Le Mans Métropole, depuis le début du 21e siècle, quelques voies de circulation ont été redirigées vers le tram et le bus T3. C'est pas rien! Non, mais ça n'a pas vraiment réduit la place de la voiture en ville. Et les embouteillages de début et de fin de journée sont toujours présents. Des embouteillages concentrés sur des temps précis, puisque la bagnole a toujours pour fonction de nous transporter pour aller au boulot et faire des courses dans les temples de la consommation présents en périphérie des villes. C'est pourquoi le samedi, il y a un certain nombre d'embouteillages qui sont vers ces temples de la consommation. Plus de 50% des trajets servent à ça, nous dit l'INSEE. En interrogeant la place de la bagnole dans les villes et dans nos vies, on devrait forcément tirer sur le fil et aborder les causes de la possession de ces véhicules de plus en plus monstrueux. Pourquoi je dis monstrueux ? Parce que l'ONG Transport et Environnement a produit un document en début d'année 2024 montrant que les véhicules les plus vendus sont passés d'une largeur de 170 cm en 2001 à 180 cm en 2023. 10 cm qui, multiplié par le nombre de voies, le nombre de bagnoles, empêchent certains de ranger leur tank dans leur garage, on en est là, et qui rend plus dangereux les croisements sur la chaussée avec le reste de ceux qui l'utilisent. Cette prise de volume se traduit par 1 cm de largeur supplémentaire tous les 2 ans depuis 2019. L'étude compare ainsi la largeur moyenne de 100 véhicules les plus vendus dans l'Union européenne en 2018, ah oui, c'est 2018, pas 2019, à 177,8 cm et au premier semestre 2023 à 180,3 cm. Donc là, ben, ça s'accélère en plus. Les caisses sont de plus en plus larges et de plus en plus hautes, avec donc un pare-choc de plus en plus dangereux en cas de contact avec un piéton ou un deux-roues. L'épidémie d'obésité s'est aussi emparée des bagnoles. L'ADEME nous informe qu'en 1980, le poids moyen des véhicules vendus en France est de 986 kg, 1233 en 2022, après être passé à 1260 en 2012. Eh ben, entre 986 et 1233, ça fait quand même 25% d'augmentation. Le poids de plus en plus lourd. Mais là n'est pas le pire. Les nouvelles voitures propres, comment ça se fait qu'ils réussissent à nous dire de telles âneries ? Hybrides rechargeables et électriques crèvent les plafonds. Je cite l'Argus, l'ami de tous les vendeurs de voitures, qui ne peut pas être taxé d'autophobie. Au 1er janvier 2023, le poids à vide moyen des véhicules électriques et hybrides rechargeables culmine respectivement à 1518 et 1825 kg. Un embonpoint record de 343 kg pour les voitures électriques et de 336 kg pour les hybrides rechargeables depuis 2012. Ah là, ouais, donc, bah oui, puisqu'on augmente la puissance, on augmente le poids des recharges, enfin là où s'accumulent des accumulateurs énergétiques, et forcément bah, ça augmente le poids. Donc 20% d'augmentation de poids en 10 ans pour les véhicules électriques et hybrides, qui sont, je le rappelle, l'avenir de l'humanité. Avec l'intelligence artificielle, au-delà de la dégradation des revêtements routiers qu'entraîne un poids accru des signes extérieurs de richesse motorisée, ces voitures propres consomment énormément de matières premières pour que nous puissions continuer, rappelons-le, puisque c'est le but de plus de 50% de nos voyages, à être de bons petits soldats de la guerre économique, en tant que ressources humaines productrices de PIB et en tant que consommateur si bien nommé, car la bagnole est achetée par une par une idéologie un petit peu mascu. Le viriliste en chef qu'on a pu voir taper un sac la semaine dernière n'est pas en reste pour promouvoir l'abrutissement motorisé. Le 24 septembre 2023, le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de pété de la rep était allé se faire voir sur les plateaux de télévision. Et là, ben, tout le monde lui a donné la parole. Pour répondre à des questions de journalistes d'acquiescement, à propos de la bagnole, on a retenu ceci. Attention, c'est court, mais éloignez les enfants quand même. Emmanuel Macron va parler.
On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Mmh. Et moi, je l'adore.
Ah oui, un petit coup de démagogie pro-bagnole pour faire popu. Il est fort, hein. Non, ça s'est vu quand même. Mais il a dit aussi ceci.
J'ai demandé au gouvernement, pour le budget qui arrive, bah de continuer à accompagner les Françaises et les Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler pour
donc
travailler.
C'est pas qu'il en coûte. Enfin, effectivement.
Non, pas du tout. Bah, on est sorti de cette logique.
C'est pas un chèque de plus.
C'est non,
pas
quelque c'est chose un mécanisme qui doit être limité.
Pour qui pour les travailleurs.
Ça dépend de comment évolue le prix.
Vous dites les travailleurs.
Qui sera limité aux travailleurs, qui ne dépassera pas les ce qu'on appelle les 5 premiers déciles, c'est-à-dire la 50% des travailleurs les plus modestes.
Et avec un montant.
Et qui sera au maximum de 100 euros. Quand on regarde ce qui est moyen, on connaît les mécanismes qu'on a déjà pu avoir, c'est 100 euros par voiture et par an. Mais
Monsieur le
c'est
Président.
Très limité, mais c'est beaucoup plus pertinent, si je puis dire. C'est-à-dire on n'aide pas les ménages qui n'en ont pas besoin et on n'aide pas les déplacements, si je puis dire, de confort. On aide ceux qui en ont besoin pour travailler parce que au-delà de la pression qu'on met, on ne peut pas laisser certains de nos compatriotes qui ont besoin de rouler pour travailler face à des prix qui sont durablement élevés.
Ah, il le répète pas moins de 5 fois en une minute. La bagnole, c'est pour aller travailler. Eh oui, augmenter la mobilité, la favoriser toujours pour que nous puissions assurer notre rôle de ressources humaines. On sert à ça pour les libéraux, hein. Pour Monsieur Macron, libéral en chef du gouvernement actuel, nous ne servons qu'à rapporter du profit à certains et ensuite ça va pouvoir nous ruisseler dessus un petit peu. Bon, ça marche pas, hein, mais l'important c'est de continuer à le faire croire. C'est pas pour les plus riches, non, qui se foutent pas mal d'ailleurs de son chèque à 100 euros et ils ont les moyens de polluer sans se soucier de l'avenir ni de leurs contemporains. Je vous renvoie au travaux méritoires produits par l'ONG Oxfam pour s'en convaincre. Mais si l'on revient au discours médiatisé de Emmanuel Macron, cette aide ne sera donc ni pour les riches, ni pour ce qu'il appelle le confort. Une aide pour aller bosser et non pas pour les plus riches ou pour le confort, mais que recouvre le mot confort pour un millionnaire en euros qui est nourri, logé, blanchi aux frais de la société ? Ah oui, tiens, d'ailleurs, on parle beaucoup de dérapage budgétaire, mais c'est C'est pourquoi le libéral vindicatif, qui nous sert de ministre de l'économie capitaliste, Bruno Le Maire, veut faire payer la population et en particulier les plus pauvres. Un dérapage de qualité a eu lieu entre 2023 et 2024 à l'Élysée. En 2022, le budget est de 109 millions. 109 millions de dépenses pour faire tourner le château qui sert de demeure à Emmanuel Macron et sa famille. En 2023, pour un budget voté à 114,4 millions, déjà il y a une petite augmentation de 5%, hein. Ouais, non, tout va bien. On apprenait par une note du président de l'Observatoire de l'éthique publique, un certain René Dosière. À lui, quand il sera plus là, je sais pas s'il y en a un qui va prendre le relais. Il pointe du doigt un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il se retrouve peut-être président de l'Observatoire de l'éthique publique. Eh bien, René Dosière a pointé du doigt, enfin, et ses services, que la dépense totale en octobre 2023, la dépense totale pour l'Élysée serait située pour l'année pleine entre 123 et 127 millions, avec un budget voté à 114. Et pour 2024, le budget prend encore 10% d'après le Canard enchaîné du 28 février 2024. Donc, le budget de l'Élysée est passé de 109 millions à 135 en deux ans. Est trop bonne la place. Et par contre, pour la rigueur budgétaire, c'est pour les autres. Alors, que recouvre ce mot pour quelqu'un qui vit aux dépens de la population et au-delà de ses moyens, hein, comme Emmanuel Macron quand il parle de confort? Eh bien, ce qui est du confort pour ce personnage, si on écoute l'interview, c'est tout ce qui n'est pas du travail. Voilà. C'est par opposition qu'on apprendra que le confort, c'est tout le reste. Pourtant, le confort n'est pas le seul lien que nous avons avec le reste de l'humanité. Si vous avez besoin de visiter un parent, un ami qui n'est pas juste à côté et qui demande un trajet un peu important, peut-être que le bus n'y va pas, peut-être que le train n'y va pas. Ben oui, parce que à force de privilégier la bagnole individuelle, on bousille aussi les transports collectifs. Eh bien, si vous avez besoin de visiter un parent, un ami, c'est du confort. Le gouvernement ne vous aidera pas à rompre un éventuel isolement social ou à accompagner un parent malade. Non, ça sert absolument à rien. L'essentiel, c'est l'activité économique. Et c'est pour ça que nos soi-disant représentants sont tout à fait d'accord pour mettre de l'argent public et remplir votre réservoir. Mais va bosser. Cette idéologie combinant les aspirations libérales de transformation de tout un chacun en source de profit par son travail et la liberté de mouvement vendue par les industriels avec la bagnole ne s'est pas imposée sans mal. C'est ce que nous verrons d'ailleurs la prochaine fois. Avis à la population, le centre social autogéré L'Allumette, situé dans le quartier de Pontlieu, a besoin de sous. Pour sécuriser le paiement des frais de fonctionnement réguliers, L'Allumette a besoin de 400 euros mensuels. Depuis la fin janvier, un appel aux dons a permis de récolter environ un tiers de la somme, qui est donc versée mensuellement par des donateurs. Alors si tu veux, ou si tu peux, les deux d'ailleurs, soutenir le lieu, c'est-à-dire le centre social autogéré L'Allumette, n'hésite pas, parle-en à tes amis, parle-en à tes ennemis, parle-en à ton oncle d'Amérique et parle-en à tous les bourgeois profiteurs que tu pourrais connaître en les culpabilisant. Si, un petit peu quand même. Alors L'Allumette, c'est un centre social autogéré qui est ouvert en permanence les mercredis et samedis après-midi avec des activités les autres jours. Il y a un Facebook, le Facebook c'est allumette.csca. Il y a un Insta, je suis nul pour les Insta, c'est @l_allumette. Il y a un mail, le mail c'est allumettelefeu@libremail.net. Et il y a même un téléphone, le 07 57 18 80 16. Donc tu peux les contacter par plein de moyens. Il y a une manifestation pour Gaza le samedi 30 mars à 14h, place de la République, et une autre manifestation le jeudi 4 avril 2024 à 18h, place des Jacobins, pour se souvenir que faudra bien que ça s'arrête quand même. Allez, si vous voulez d'autres informations, sarthe.demosphère.net. On se quitte tout de suite et je vous dis allez, au revoir.